J'ai accepté avec plaisir de venir vous parler de la recherche en psychiatrie, en partie parce que j'ai plusieurs fois entendu dans ma vie cette affirmation que les psychiatres sont incapables de faire de la recherche. Alors, je proteste. Et j'ai mis en épigraphe à cet exposé une citation de Postel et Ketel dans leur histoire de la psychiatrie qui disait à propos de la psychiatrie, jamais science ne s'est autant cherchée, mais la psychiatrie est-elle une science ? Qu'est-ce que c'est qu'une science ? Qu'est-ce qu'on en attend ? Une science, c'est un bagage de connaissances validées et qui s'améliore par la recherche, d'où une réflexion que je vais tâcher de faire sur la recherche. Pour comprendre la position de la psychiatrie par rapport à la recherche, il me semble qu'une perspective historique est indispensable, et j'ai retrouvé cette affirmation à propos de toute autre chose, à propos du diagnostic psychiatrique, dans ce livre que j'ai beaucoup apprécié, qui est paru récemment, de Saloum Mézik, qui dit que pour empêcher la psychiatrie de se dissoudre en sous-unité et pour renforcer l'approche centrée sur la personne, nous avons besoin de la perspective historique. J'aurais pu me fier à la périodisation de Georges Lanthéry-Laura, que je mentionne, mais je vais en adopter une un petit peu différente. La scientificité de la psychiatrie se cherche. Et elle s'est cherchée au cours de l'histoire, en plusieurs étapes, et avec quelques errements qui, en même temps, sont très instructifs. La périodisation de Lanthéry-Laura nous montre comment, en deux siècles, depuis le début du XIXe jusqu'à nos jours, la psychiatrie a défini son objet d'étude. Et c'est une démarche scientifique de base. De quoi nous occupons-nous ? Au début du XIXe siècle, toutes les maladies mentales sont réunies en une seule catégorie, l'aliénation. Le fou est un aliéné, c'est-à-dire quelqu'un qui déraisonne, qui ne raisonne pas comme tout le monde, qui déraille. C'est la notion populaire dont parle la psychiatrie. Cette notion se raffine à la fin du XIXe siècle par l'identification soigneuse de différentes maladies mentales. Kraepelin, Bleuler, la définition de la maniaco-dépression, de la démence précoce qui devient la schizophrénie, de l'autisme, qui est d'abord un symptôme, puis une maladie, etc. Et Bleuler était très précis là-dessus. Il disait que Kraepelin avait eu tort d'appeler démence précoce ce qui n'est pas une démence, parce que ce n'est pas un processus de détérioration, c'est un processus de dissociation. Et détérioration et dissociation, ce n'est pas pareil. Dans une troisième époque, la psychiatrie s'est attachée à théoriser, elle est montée plus haut dans la généralisation en définissant des structures, des grandes structures psychopathologiques, névrose, psychose, et entre les deux, les états limites, borderline. Et puis, depuis une trentaine d'années, on a assisté à une quarantaine d'années, on a assisté à un émiettement de la psychiatrie, qui ne définit plus comme son objet que des troubles, une multiplicité de troubles, disorders en anglais. Ce sont les tâtonnements nosologiques qui caractérisent la psychiatrie dans cette périodisation de Lanthéry-Laura. Le plan que je vais suivre va être un tout petit peu différent. Je ne considère que le XXe siècle, qui est juste derrière nous et dont nous héritons directement. Et je vais essayer de montrer comment, dans un premier temps, la neuropsychiatrie a été une science, ou considérée comme telle, a eu les objectifs d'une science et d'une science naturelle, Naturwissenschaft. Dans un deuxième temps, on a assisté à une scission entre deux types de psychiatrie, organiciste et dynamique. Dans un troisième temps, la psychiatrie a connu une dérive antipsychiatrique, elle s'est niée elle-même, adoptant les thèses de l'antipsychiatrie. Et depuis une vingtaine d'années, en quête d'un nouveau cadre conceptuel, on essaye de retrouver une unité de la discipline. J'aborde ici mon premier point. Entre à peu près 1900 et 1930, il y a eu une neuropsychiatrie qui était en fait une neuropsychologie-psychiatrie qui se comprenait elle-même comme une science de la nature. On peut considérer qu'au début du XXe siècle, et grâce à l'héritage de la fin du XIXe, où plusieurs maladies mentales distinctes ont été identifiées, tout est en place pour qu'une science des maladies mentales se développe. On a des instituts de recherche, des méthodes scientifiques, les étudiants font des thèses de recherche. Si vous regardez la seconde citation que j'ai donnée ici, qui est tirée de Postel et Kettel, on demande à l'étudiant des premières décennies du XIXe siècle de réciter sa leçon, tandis que l'étudiant de la fin du XIXe et du XXe siècle se doit de faire progresser la science. Faire progresser la science psychiatrique, c'est l'objectif des thèses d'étudiants en 1900. On observe aussi, en ce début du XXe siècle, des alliances stratégiques très fortes entre la psychiatrie et la neurologie et entre la psychiatrie et la psychologie. Par exemple, les médecins psychiatres se bousculent au cours que Théodule Ribot, qui est un psychologue, qui est titulaire de la chaire de psychologie expérimentale, fait au Collège de France. Le successeur de Ribot, Janet, se voit confier par Charcot à la Salpêtrière un laboratoire de psychologie. Et Pierron, qui enseigne lui aussi au Collège de France, s'initie à la psychiatrie en fréquentant régulièrement un service de psychiatrie de Villejuif, de l'hôpital de Villejuif. Les liens sont donc très étroits entre la psychologie, qui est elle aussi en train de devenir une science humaine, et la psychiatrie. Quant à Freud, dont je donne ici une petite citation, il nous dit que le concept d'après lequel l'élément psychique est en soi inconscient a permis de faire de la psychologie une branche semblable à toutes les autres des sciences naturelles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire l'objet étudié en psychologie ou en psychiatrie doit être traité comme une chose qu'on regarde objectivement, au lieu que la tradition de la psychiatrie, de la psychologie au XIXe siècle, c'était l'introspection, le journal intime. Il se crée une distance entre celui qui cherche et celui sur lequel on fait l'observation, qui garantit une objectivité scientifique. Si j'ai dit comme une chose, c'est parce qu'à la même époque, Émile Durkheim, le sociologue, dit qu'il faut traiter les faits sociaux comme des choses, c'est-à-dire les regarder objectivement, se placer en face d'eux et observer. Pour vous donner l'estime de cette génération de psychiatres qui fondaient une psychiatrie scientifique, je vous énumère ici quelques grands noms qui étaient responsables de très grands services de psychiatrie qui étaient aussi des services de recherche. À Moscou, Korsakov. À Paris, à l'Hôtel Dieu, Gilbert Ballet, qui est l'un des fondateurs de la Société française de neurologie, de la Société française de psychiatrie et du journal L'Encéphale. L'Encéphale qui publie aussi bien des articles de neurologie que de psychiatrie. Et Ballet disait qu'il faut rompre l'isolement où s'est laissée momentanément enfermer la pathologie mentale. La recherche doit être collective et interdisciplinaire. On se féconde mutuellement entre disciplines. À Munich, c'est Kraepelin qui transforme sa clinique psychiatrique en institut de recherche. Et l'institut de recherche de Kraepelin est devenu aujourd'hui un institut Max Planck, un centre de référence européen. Il y a donc toute une tradition là qui s'est transmise. Quant à Henry Maudsley, à Londres, il a suivi l'exemple de Kraepelin. Il a fait construire au sud de Londres un institut de psychiatrie tout à côté d'un hôpital. Et la recherche et la clinique vont ensemble. Freud est l'exception dans ce tableau, puisque Freud, lui, ne travaille pas à l'hôpital, pas dans un institut de recherche, il travaille tout seul chez lui. Mais il a été l'auteur de ce projet pour une psychologie scientifique qui disait lui aussi que la psychologie, la psychiatrie, toutes ces sciences doivent devenir objectives. Et Bleuler travaille à Zurich, lui aussi dans un esprit de recherche. Bleuler disait que faute d'avoir des traitements pour ses malades, il s'est mis à les écouter. Et ça a été sa première démarche de recherche. Dans cette époque du début du XXe siècle, il y a déjà une tension entre deux tendances, deux types de psychiatrie. Mais ces deux types de psychiatrie reflètent une division qui est tout à fait courante en biologie et en médecine, c'est la distinction entre structure et fonction. Il y a ceux qui sont plus intéressés par les structures et ceux qui sont plus intéressés par les fonctions. Autrement dit, en termes médicaux, ceux qui font de l'anatomie et ceux qui font de la physiologie. La psychiatrie organique, c'est le modèle objectiviste qui s'intéresse surtout aux conditions d'un diagnostic objectif. On cherche les signes, on relève les symptômes, on nomme la maladie, et à cette époque-là, la prescription, c'est pas grand-chose. De grands exemples ont survécu de cette attitude. À cette époque, on décèle derrière la paralysie générale considérée comme une maladie psychiatrique la syphilis, qui est une maladie infectieuse. À la même époque, on distingue derrière une certaine forme de dégénérescence mentale des vieillards, de sénilité, les signes cérébraux qui signent la maladie d'Alzheimer. Donc, le modèle objectiviste s'attache à définir de mieux en mieux les maladies, avec un sous-boissement biologique. Le modèle dynamique de science, ou le modèle fonctionnel, s'intéresse au processus. Processus de transfert, processus de résistance, pulsion. Et la voie d'abord accompagne ces processus, par exemple, dans l'hypnose. Ce n'est pas seulement un procédé freudien, ça existait avant Freud, puisqu'il l'a vu faire à la Pitié-Salpêtrière. Lisons maintenant cette citation que je vous donne de Freud, 1920, au-delà du principe de plaisir. Freud affirme à cette époque que nous autres psychiatres, ou psychologues, ou psycho-quelque chose, nous faisons des hypothèses. Ces hypothèses Nous aimerions les faire tester, valider ou au contraire réfuter par la biologie. Mais la biologie n'est pas, à cette époque, en mesure de tester nos hypothèses. Nous en restons donc aux hypothèses. Mais nous espérons qu'un jour, la biologie viendra à l'appui de nos hypothèses. Et il termine cette petite coupure que j'ai faite en disant que peut-être les réponses que donne la biologie seront susceptibles de renverser d'un souffle tout notre édifice artificiel d'hypothèses. C'est une idée importante que une démarche de recherche débutante édifie des hypothèses, mais qu'un jour, ces hypothèses, il faut les tester. Et Freud était convaincu qu'on les teste par la biologie, au moins en partie. Après avoir pris ce départ, dans un second temps, il se produit une scission entre la psychiatrie organiciste et la psychiatrie dynamique. Et cette scission se comprend si on se réfère à ce qu'avait dit un philosophe qui s'appelle Diltai, qui écrivait pas beaucoup, mais qui faisait beaucoup de cours, à la fin du XIXe siècle. Il avait dit, au fond, il y a deux grands types de sciences, les sciences de la nature et les sciences de l'esprit. Naturwissenschaften et Geisteswissenschaften. Et l'idée de Diltai, c'était que dans les sciences de la nature, on se contente d'expliquer. On a toute une méthodologie, toute une armature de méthodes de recherche qui permettent de trouver des explications aux phénomènes observés. Des explications, c'est-à-dire des causes. Et il affirmait, lui, que dans les sciences de l'esprit, en plus d'expliquer, on doit essayer aussi de comprendre, parce que dans les sciences de l'esprit, on communique avec l'esprit qu'on est en train d'étudier, et on doit pouvoir comprendre le sens de ce qu'il fait. Le sens, c'est-à-dire dans les deux sens, la signification et la direction, ce qu'il vise. Cette analyse de Diltai a été mal comprise et ce qu'on en a retenu souvent, c'était que les sciences de la nature expliquent et que dans les sciences de l'esprit, il suffit de comprendre. Diltai n'a jamais dit ça. Il ne suffit pas de comprendre le sens d'une action pour l'expliquer. Il voulait que dans les sciences de l'esprit, à la fois, on explique et on comprenne. Si le contresens sur cette idée de Diltai est en partie à l'origine de la scission dont j'ai parlé, en fait, un autre événement est responsable, c'est l'essor de la psychopharmacologie. Vous avez tous conscience, je pense, que avant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire avant le milieu du XXe siècle, la psychiatrie est largement impuissante à guérir ses malades. Elle peut faire des diagnostics, mais les guérisons sont rares ou accidentelles. En réalité, on met les malades dans des asiles et puis on les garde. Il y avait, entre les deux guerres, des thérapeutiques de choc qui avaient été proposées et qui ont été utilisées par les psychiatres. Vous les connaissez, la malaria-thérapie, le coma insulinique, l'électrochoc. Et en 1936, on a aussi commencé à faire de la chirurgie sur les malades mentaux, puisque en 1936, c'est la publication du travail de Moniz sur la lobotomie frontale comme traitement de la maladie mentale, traitement qui a été pratiqué bien au-delà de la Seconde Guerre mondiale, hein, jusque dans les années 70, ça dépend des pays, mais il n'y a pas si longtemps. Et puis, entre 1949 et 1959, brusquement, à peu près tous les grands médicaments psychiatriques ont été découverts. Pas par des psychiatres, par des chimistes. Très peu de psychiatres à l'époque connaissaient la moindre chose en chimie. Cette découverte, les psychiatres l'ont vue tomber du ciel et elle les a rendus puissants. La recherche pharmacologique a orienté les psychiatres vers une réflexion sur les neurotransmetteurs et toutes sortes d'hypothèses causales en psychiatrie sur les neurotransmetteurs et à une réflexion aussi sur les bonnes conditions dans lesquelles on peut faire une recherche clinique sur l'effet des médicaments. Je vous ai ici fait la liste simplifiée des publications qui résument cette décennie, 1949-1959. Vous voyez apparaître successivement le lithium comme traitement de l'excitation psychotique, comme le dit le premier titre, puis le premier neuroleptique, la chlorpromazine, qui, en quelques mois, ça sort d'un laboratoire de chimie. En quelques mois, elle est essayée sur des malades et on la donne comme traitement de la psychose, de l'ensemble des psychoses, de l'Edeniker. Apparaissent ensuite les IMAO, un tranquillisant, l'Equanil, le premier antidépresseur, l'imipramine, un second IMAO, une benzodiazépine, la première, le Librium, qui n'est plus en vente, je crois. Il était trop bon. Et il ne faut pas dire qu'on a cessé de réfléchir sur la psyché, l'aspect psychologique de l'effet du médicament, puisqu'on a aussi une réflexion sur le placebo. Tout ça en 10 ans, qui tombe du ciel dans une communauté de psychiatres ne connaissant pas la chimie et qui découvre qu'en prescrivant ces produits, ils aident leurs malades. Je me souviens de la crise de jalousie faite à cette époque par les neurologues. Mon souvenir est un peu plus récent. C'est dans la fin des années 70. Un neurologue m'a dit un jour, « Vous avez de la chance, vous, psychiatre. Vous guérissez vos malades, ou au moins vous les améliorez, vous leur faites du bien. Quand vous recevez une plainte d'un malade, vous pouvez faire quelque chose. » À la même époque, les neurologues étaient désespérément sans thérapeutique. Ils observaient, ils avaient un diagnostic d'une finesse rare, ils faisaient des diagnostics éblouissants et il n'en résultait rien pour le malade. Le malade n'allait pas mieux. Maintenant, sous cette avalanche de produits chimiques, la théorisation des psychiatres, au moins d'une partie d'entre eux, a dérivé vers la réflexion sur le rôle des neuromédiateurs dans les diverses maladies mentales. C'est la faute de trop de catécholamine, pas assez de catécholamine, etc. Donc, on a vu apparaître des théories causales des maladies psychiatriques en termes chimiques. En même temps, la recherche concrète, ça a été la recherche sur l'effet des médicaments. Les psychiatres ont été assez lents à se mettre à la méthodologie des essais contrôlés randomisés. Tous les médicaments que j'ai énumérés dans la liste ont été essayés hors de toute standardisation d'essais contrôlés randomisés. Tous les premiers grands médicaments psychiatriques, on les a simplement donnés à des malades et au bout de 3 semaines, on disait « ça marche, on l'emploie ». En même temps, chez certains psychiatres, cette situation créait un malaise. On ne comprenait pas beaucoup mieux la maladie mentale, on la terrassait avec la chimie. Et les psychiatres qui ne se satisfaisaient pas, ou bien de la réflexion causale, hypothétique, sur la maladie mentale, en termes chimiques, ou bien des essais thérapeutiques, de médicaments, ceux-là ont pris une autre direction, ils ont rejoint ce qu'on appelle le courant anthropologique. Le courant anthropologique est un courant philosophique qui vient du début du XXe siècle et d'une réaction, surtout dans les pays de langue allemande, contre l'objectivisme scientiste. Ce que véhiculait, la grande idée que véhiculait le courant anthropologique, c'était qu'il faudrait faire de la science de façon humaniste, de façon non réductrice, de façon intelligente, de façon philosophique. Ce courant anthropologique a donné lieu à l'éclosion d'une multitude de livres, d'articles, une littérature immense, principalement en langue allemande. Je vous énumère ici un grand nombre de noms. Le premier, c'est Jaspers, qui lance une idée tout à fait contraire à l'idée d'une science objectiviste, c'est l'idée qu'on doit communiquer avec son patient, qu'on ne se contente pas de l'observer et d'être objectif, c'est-à-dire neutre. Non, on n'est pas neutre, on va communiquer. Empathiser, on dirait maintenant. Il employait le mot Einfühlung. On doit sentir avec son malade. Sentir. Je dis, ces psychiatres qui ont pris en route le courant anthropologique, ils sont principalement de langue allemande, car les psychiatres de langue française qui se sont introduits dans ce mouvement sont venus dans un second temps. Les caractéristiques que j'ai énumérées ici vous permettent de reconnaître le genre de philosophie à laquelle ils se rattachent. Quand vous voyez psychanalyse existentielle ou phénoménologie existentielle, vous vous dites cela, ils ont rattrapé la tradition existentialiste qui a été introduite en psychiatrie par Jaspers et qui remonte à Kierkegaard. Quand vous voyez phénoménologie, bien sûr, c'est l'influence de Husserl. Ce sera ensuite l'influence de Maurice Merleau-Ponty quand il sera entré dans la course, mais il est plus jeune. Quand vous voyez analyse, vous voyez, analyse existentielle ou analyse de la présence, ce n'est pas l'analyse au sens de la philosophie analytique anglo-saxonne. Pas du tout, pas du tout. C'est la psychanalyse de Freud. Donc, à chaque fois que vous voyez le mot analyse, analytique, vous vous dites, là, il y a l'influence de Freud. Ils ont lu Freud. Ils essayent d'imiter ce que fait Freud. Et quand vous rencontrez le mot « Dasein », Daseinsanalyse, c'est l'influence de Heidegger. Donc ce courant-là est pétri de philosophie. Que font-ils ces psychiatres qui se mettent à lire des philosophes et à vouloir pratiquer de façon philosophique, et dans leur esprit, ça veut dire de façon humainement décente et pas objectiviste. Bien, la citation que je vous donne de Jaspers donne un point de départ. Jaspers écrit « La phénoménologie, première étape de la démarche scientifique, a pour objet l'étude des états d'âme tels que les malades les éprouvent. Elle veut nous les représenter sous une forme concrète et considérer leur rapport de parenté. Elle essaye de les délimiter, de les distinguer, de les nommer. » Dans cette démarche, vous trouvez à la fois la démarche d'identification précise des caractéristiques de la maladie et en même temps l'idée qu'il faut appliquer cette démarche non pas à ce qu'on observe à l'extérieur dans les conduites du malade, mais à ce qu'on recueille de ce qui est à l'intérieur du malade, l'état d'âme avec lequel on essaye de communiquer. En exerçant la même méthode délimitée, distinguée, nommée. C'est la méthode scientifique, mais appliquée à des états psychiques. Des états psychiques comme le délire, comme la mélancolie, comme le retrait autistique. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'autiste? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du mélancolique ou à l'intérieur du schizophrène délirant? Vous me direz, mais il n'y a pas de communication avec l'intérieur. On essaye d'empathiser suffisamment pour atteindre l'intérieur. Et l'une des idées avec laquelle ce courant a flirté, d'une façon non régulière, en prenant des positions différentes selon les auteurs, c'est l'idée que le trouble mental est une pathologie de la liberté, idée exprimée par Henri Hay, et qui est une vieille idée philosophique, cette idée du choix originaire qui définirait un individu, choix qui est plus ancien que lui-même ou plus ancien que lui-même consciemment. Chaque destin psychique se rattacherait à un choix originaire. C'est une idée que Jaspers n'accepte pas. Jaspers, lui, disait « La maladie mentale, vous ne la choisissez pas, elle vous tombe dessus. » Et ce que vous choisissez, c'est ce que vous en faites, mais pas la maladie. Donc vous trouvez les deux façons d'interpréter cette notion de pathologie de la liberté. J'avais ensuite prévu de vous donner une citation de Binswanger, mais puisqu'on a parlé de Suzanne Urban ce matin, je ne vais pas insister. Je veux seulement faire toucher ici ce que c'est que la démarche phénoménologique quand elle se veut scientifique. Elle commence par une observation au ras du cas. Elle s'efforce d'atteindre à l'intérieur de celui qui vit l'état, d'atteindre ce qu'on appelle dans ce langage phénoménologique une essence, une essence, je l'ai... Quatrième ligne, une essence anthropologique. Et à partir de ce qu'on perçoit de cet état interne dans l'exemple d'un malade particulier, hop, on généralise, on universalise. Et vous regardez la dernière ligne, ce que le psychiatre a perçu, ce que le psychiatre phénoménologue a perçu, c'est l'essence du terrifiant à l'intérieur de Suzanne Urban, l'essence pure du terrifiant en tant que possibilité existentielle. Là, c'est une hypothèse très générale, tellement générale qu'elle est sûrement vraie, puisqu'on vous dit que c'est une possibilité, ça n'a plus rien à voir avec Madame Urban, ça. C'est une possibilité existentielle. Dans la gamme des possibilités humaines, il y a cette possibilité-là, être envahi par la terreur. C'est sûrement vrai puisqu'on a un exemple. Et en même temps, ce n'est pas réfutable. On ne peut pas appeler ça une hypothèse scientifique. On sort de la science. Là, je vous ai fait une petite bibliographie de ces auteurs. Beaucoup des ouvrages de ce grand courant de langue allemande restent en langue allemande. Et malheureusement, nous maîtrisons mal la langue, au moins la plupart d'entre nous, et nous pouvons nous dire que cette littérature est inaccessible. Certains textes ont été traduits, mais surtout, nous avons des représentants français de ce courant, et en particulier le Marseillais Arthur Tatossian, psychiatrie phénoménologique. Ça, c'est tout à fait lisible. Et à ceux qui se disent que ça n'a rien donné en pratique, on doit répondre que si, ça a donné quelque chose en pratique. Si vous avez lu le livre, le dernier que je cite ici, celui de Irving Yalom, psychiatre américain, qui s'appelle « Existential Psychotherapy », Yalom maintenant écrit des sortes de nouvelles dans lesquelles il expose des cas de thérapie, et la pratique de la psychothérapie existentielle se rattache directement à ce courant anthropologique. Cette pratique de la psychothérapie existentielle, vous avez des manuels qui vous expliquent comment l'avoir. Donc, on peut dire qu'il y avait dans ce courant-là aussi une recherche visant à la généralisation, dégager des essences ou des contenus eidétiques et généraliser, ce sont des possibilités humaines. Et puis, pour la pratique, un style de psychothérapie qui se différencie du style psychanalytique freudien. La psychothérapie existentielle, je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'est une autre manière d'aborder le patient que la manière freudienne. Nous en sommes là dans les années 60. Et à partir des années 60, j'aborde mon troisième point, il y a le psychiatre était dans une position impossible. C'est à cette époque que j'ai appris la psychiatrie dans les années 70. Et ce qu'on faisait dans les années 70, c'est que d'une main, on prescrivait des médicaments parce que ça, c'est efficace. Ça apportait quelque chose au malade. En même temps, on disait, la doctrine n'est pas là. Ça, on le fait, bon, c'est utilitaire. On savait très, très peu de chimie. On savait très, très peu comment les médicaments agissent, en réalité. Et on l'enseignait très peu. Et puis, de l'autre côté, on faisait un peu de psychothérapie existentielle ou de psychothérapie analytique ou de psychothérapie quelconque, en pensant que, humainement, c'était mieux. Mais il n'y avait aucun lien entre les deux. Cette position intenable s'accompagnait en France d'une situation intenable pour les internes en psychiatrie. Alors, il ne faut pas dire trop de mal de cette période, car elle a aussi connu en France, elle a aussi connu en France la mise en place de la psychiatrie de secteur, la destruction de la psychiatrie asilaire et progressivement la déshospitalisation des malades. Ça, c'est l'œuvre de Bonafé. Mais du côté des internes en psychiatrie, qui étaient donc entraînés, plus ou moins, d'une part à prescrire les médicaments dont ils ne comprenaient pas toujours l'action, et d'autre part, faites votre psychanalyse, soyez psychanalysés. Le malaise qui s'est institué a été aggravé par le fait que, en France, pour devenir psychiatre, il ne fallait pas seulement devenir psychiatre, il n'y avait que neuropsychiatres qui soient reconnus par l'ordre des médecins. Donc si vous vouliez exercer, vous deviez être neuropsychiatre, donc avoir appris la neurologie et la psychiatrie. C'était la même chose pour les neurologues. Les deux disciplines n'étaient pas séparées. Il y a eu, en 1965, des journées organisées par les internes parisiens en psychiatrie. En plus, les internes en psychiatrie étaient moins bien payés que les internes en neurologie, ce qui aggravait la situation. Et au cours de ces journées de 1965, présidées par Henri Hay, mais menées par les internes en psychiatrie, on a réclamé instamment l'autonomisation de la psychiatrie. À bas la neurologie. On ne veut plus apprendre la neurologie. Il y en a marre de la neurologie. On veut être une discipline à part entière. C'est ce qui s'est fait. C'est ce qui s'est fait avec un rejet de la culture médicale tout entière. Et on a été tout près de voir la psychiatrie déménager des facs de médecine et s'installer dans les facs de lettres. La tentation a été très grande de quitter la médecine, de quitter l'apprentissage médical et d'aller avec les philosophes, les psychologues, dans les facs d'humanité. Il s'exerçait aussi, il faut bien le dire, à cette époque, une sorte de terrorisme psychanalytique qui faisait que la formation des psychiatres était essentiellement la psychanalyse. Personnellement, quand j'ai appris la psychiatrie à la fin des années 70, André Bourguignon, qui était notre professeur responsable, ne faisait aucun cours, il n'y avait pas de cours, et il nous disait « Votre seul devoir est de vous faire analyser ». Effectivement, le rapport à la médecine n'était plus clair. Au cours de ces journées de 65, il y a eu un livre blanc qui a été rédigé et qui a été publié, donc vous pouvez le consulter. Dans ces journées, on voit que la notion de recherche en psychiatrie était devenue complètement floue, puisque Blanc, qui a rédigé en grande partie le livre blanc, écrit « L'activité du psychiatre, comme son champ de recherche et de réflexion, la recherche se tourne en réflexion, voyez, se situe aux confins des sciences biologiques et des sciences humaines. Le champ de la psychiatrie s'étend des catécholamines à la sociologie et à la métaphysique et de la pompe à sodium à l'herméneutique et à l'eschatologie. » On a parlé de ces journées de 65 comme de 68 avant 68. C'était une révolte contre l'état de fait et une révolte qui tendait à libérer la psychiatrie de son joug médical. Ça n'était pas tout à fait une particularité française, car Eric Kandel, quand il a raconté comment il avait appris la psychiatrie à Harvard, aux États-Unis, a dit lui aussi que quand il est arrivé pour suivre des cours de psychiatrie, il n'y avait pas de cours de psychiatrie, il n'y avait même pas, dit-il, une liste de lectures à faire, il n'y avait rien du tout. La seule injonction qu'on leur a donnée, c'est « faites-vous analyser ». Et après, qu'est-ce que vous faites avec vos malades? Écoutez-les. Écoutez vos malades. La seule règle qu'il ait reçue. Et il dit qu'après ça, il a tourné le dos à la psychiatrie, il est allé faire de la recherche sur la souris. L'idée qui se dégage de ce que fait la psychiatrie à cette époque, une idée qui a été développée dans le cadre du mouvement antipsychiatrique, c'est l'idée que la maladie mentale est une construction sociale. Les malades, soi-disant malades psychiatriques, ne sont pas des malades. Il y a une diversité humaine, ils font partie de la diversité humaine, et ils sont traités comme malades, enfermés comme malades, mis à l'écart comme malades, par une société qui ne les supporte pas. Le problème n'est donc pas médical, le problème est social. Quand vous êtes psychiatre, que vous vous destinez à soigner des malades mentaux, et qu'on vous dit « il n'y a pas de malades mentaux, le problème est social », que faites-vous ? La psychiatrie ne savait plus trop à quel sein se vouer à ce point-là. D'autant que on tapait dessus. Dans le journal Le Monde, en 1971, on pouvait lire sous la plume de Madame Escoffier-Lambiotte, qui était un chroniqueur médical au Monde très, très apprécié, le néant scientifique sur lequel repose à l'heure actuelle la psychiatrie, l'offre à toutes les déviations, à toutes les erreurs, à tous les empirismes, et la conduit tout droit, si elle n'y prend garde, à une sociatrie, bah oui, une maladie de la société, qui lui ferait assumer peu à peu toutes les déviances, non des individus, mais de la société elle-même. On peut parler d'une crise importante de la discipline à ce moment-là. Il y avait pourtant quelques prodromes d'une reconstruction, puisque André Bourguignon, que j'ai mentionné tout à l'heure et qui ne faisait pas de cours de psychiatrie, André Bourguignon avait tenté une initiation à la recherche clinique et publié un petit peu sur les méthodes de recherche en psychiatrie. Et en fait, il était contemporain des efforts du DSM aux États-Unis et de la tentative de Gelfi de traduire le DSM américain. J'aime beaucoup la réflexion de Bourguignon dans son livre de 82, Initiation à la recherche clinique. Les dangers que les assertions non prouvées font courir aux malades sont plus grands que les interférences produites par la recherche. Beaucoup de gens, à cette époque-là, disaient faire de la recherche en psychiatrie, ça perturbe les malades. Ça perturbe les malades. Donc, il ne faut pas faire de recherche. Et en réalité, on vivait sur des dogmes, sur des doctrines, sur des notions a priori qui n'avaient pas été validées. Et Bourguignon crie bien fort, les assertions non prouvées, c'est dangereux. J'en viens à mon quatrième point, en quête d'un nouveau cadre conceptuel et l'appel de Eric Kandel. Je commencerai par dire que, au cours des années 1990, exactement en 6 ans, entre 91 et 97, vous avez eu 8 rapports sur la recherche en psychiatrie, rapports demandés par des gouvernements, des institutions de recherche. La société s'est mise à se soucier de ce que les psychiatres ne faisaient pas de recherche. Je donne seulement une citation de ce qu'on trouve dans ces rapports, car ils répètent tous la même chose. Je cite le rapport Massé, le second, Massé et Zarifian. La bonne volonté est générale et n'a d'égal que l'incompétence dans ce que doit être une recherche clinique rigoureuse. Les psychiatres français ont souvent d'excellentes idées, une bonne culture générale, ils sont capables d'émettre des hypothèses très intéressantes, mais ils n'ont pas conscience que la recherche clinique nécessite une méthodologie, un protocole, de la rigueur, une exploitation statistique des résultats, etc. Autrement dit, les psychiatres sont des gens charmants, ils ont des tas d'idées, mais les disciplines de la science, ils ne les connaissent pas. C'est alors que l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, a pris l'initiative de réunir 21 sociétés françaises de psychiatrie ça s'appelait la commission Glowinski, parce que c'est Glowinski qui en était le président. Et cette commission a réussi en janvier 82 à aboutir à un accord qui créait la FFP, la Fédération française de psychiatrie, dans un but bien précis, reconstruire la recherche psychiatrique. Le journal de la FFP s'intitule « Pour la recherche ». Vous connaissez le site, je pense, PsyDoc. Actuellement, apparemment, à vrai dire, la recherche n'est pas complètement ressuscitée car ce site est vivote. Il n'est pas explosif. Apparemment, la FFP fédère actuellement 53 sociétés différentes de psychiatres. Et depuis 2 ans, fonctionne dans ce cadre un réseau de recherche qui s'appelle le réseau fondé sur les pratiques psychothérapiques et qui se donne comme objet de comprendre dans quelles conditions et comment une psychothérapie marche, donc aboutit à un succès. Sous l'égide de la FFP, il y a eu des états généraux de la psychiatrie française dont il a beaucoup été question dans les journaux en 2002 et un second livre blanc de la psychiatrie. Et le journal Le Monde, qui s'intéressait décidément beaucoup aux psychiatres, titre « Il y a aujourd'hui 12 500 psychiatres, il y en avait 1600 il y a 10 ans, enfin au moment de 65. Il y a 4 millions de malades, et quelles recherches ? Qu'est-ce qu'ils nous ont trouvé de neuf ? Quelle est l'amélioration apportée aux malades depuis des années ? En fait, le contexte international était devenu assez positif, puisque à la fois l'OMS, c'est ce que je mets en bas ici, l'OMS avait consacré son rapport sur la santé dans le monde en 2001 à la santé mentale. L'OMS expliquait que la santé mentale, c'est un tiers des problèmes médicaux dans le monde, un tiers de tous les problèmes médicaux, des problèmes de santé, et que donc il faut se mobiliser pour améliorer l'apport de la société dans ce domaine-là. L'Association mondiale de psychiatrie a été assez lente à démarrer pour suivre le mouvement, mais elle aussi escortait le mouvement. Et puis, il y a eu les appels d'Eric Kandel. Eric Kandel, c'est donc ce... Alors, je vous ai recopié ici une petite citation qui est empruntée à son autobiographie. Kandel est, je crois, le seul psychiatre à avoir jamais eu un prix Nobel. Et il a, en somme, avec la visibilité que lui a donné son prix Nobel, il est revenu vers la psychiatrie qu'il avait quittée. Puisque je disais tout à l'heure, et là on le voit le dire lui-même, « Je suis entré à Harvard avec l'intention de devenir un historien. Je suis sorti de Harvard pour devenir un psychanalyste. » Puisqu'on m'avait dit la psychiatrie, c'est la psychanalyse. J'ai abandonné ces deux carrières pour suivre mon intuition que le chemin qui mène à une vraie compréhension de l'esprit passe par la voie de l'étude cellulaire du cerveau. Oui, c'est ça, en gros. Kandel, dont le prix Nobel date de l'année 2000, a commencé par, dans son propre institut à Columbia, New York, pour le 100e anniversaire de l'Institut psychiatrique de l'Université Columbia, il a commencé lui-même à dire aux psychiatres « Ce que vous faites, c'est passionnant, mais vous devez le faire autrement. » Je lis cette citation empruntée à son discours de Columbia. Il est curieux et stimulant de penser que dans la mesure où la psychanalyse produit avec succès des changements persistants dans les attitudes, les habitudes et les comportements conscients et inconscients, elle le fait en produisant des modifications dans l'expression génétique qui produisent des changements structuraux dans le cerveau. Nous sommes confrontés à l'intéressante possibilité que l'amélioration des techniques d'imagerie cérébrale puisse être utile, alors là, une petite provoque, non seulement pour le diagnostic de différentes maladies névrotiques, mais aussi pour suivre visuellement le progrès de la psychothérapie. Vous ne les validez pas, vos psychothérapies ? On va les valider par imagerie cérébrale. Bon, c'est une plaisanterie, semi-plaisanterie. Le message pressant de Kandel, à ce moment-là, ça a été de dire au psychiatre, vous avez, avec les années, amassé un trésor d'informations immenses à travers des histoires de cas. Vous avez analysé des cas et vous êtes assis sur un trésor de faits que vous n'exploitez pas. Et vous faites des hypothèses que vous ne validez pas. Et où voit-il la validation ? Ben c'est exactement ce que disait Freud. La validation est dans la biologie. Vos hypothèses de psychiatre, vous les validerez par la biologie. C'est ce qu'on a appelé, c'est ce que Jean-Michel Turin, la FFP, a appelé un nouveau cadre conceptuel de travail pour une psychiatrie revisitée. Les deux textes, car il y en a eu un second, et je vais y venir, de Kandel, les deux textes de Kandel ont été traduit en français et publié dans le journal L'évolution psychiatrique avec une introduction du secrétaire général de la FFP, c'est-à-dire Turin. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cadre de travail ? Qu'est-ce que je fais là ? Pardon. C'est celui-là que j'ai lu tout à l'heure. Suivre visuellement le progrès de la psychothérapie dans une imagerie mentale, dans une imagerie cérébrale. Et ma suivante, c'est le cadre de travail de Kandel, que vous pourrez retrouver facilement, puisque c'est traduit en français et c'est accessible dans le journal L'évolution psychiatrique. Il se résume en 5 principes. Et l'idée qui est derrière le principe, c'est que le cerveau et la psyché sont une seule et même réalité et que les hypothèses que vous faites sur la psyché, vous pouvez les valider en regardant sous l'autre angle, la même entité. Les interventions on sait que c'est vrai maintenant, les interventions psychothérapeutiques produisent des restructurations dans le cerveau. Dire qu'on peut facilement les mettre en évidence, c'est autre chose. Kandel allait un petit peu vite de ce côté-là. Mais je pense qu'il y a dans ce programme de Kandel une idée très importante à conserver pour le choix de nos projets de recherche actuellement. C'est l'idée qu'il faut refuser la scission de la psychiatrie entre un courant dirigé vers la chimie et un autre courant dirigé vers l'humanisme, comme si ça n'avait aucun rapport, comme si c'était deux réalités complètement différentes. Il faut se dire que les recherches bien ciblées font des ponts entre les deux aspects. Et j'ai ici énuméré un certain nombre de réalisations tout à fait contemporaines, et vous les connaissez vous-même, qui sont des réalisations de recherche tendant à relier des données qu'on peut dire psychologiques ou psychanalytiques et des données neurobiologiques pour faire de la psychiatrie une seule science. une seule science socio-psycho-biologique. On peut comprendre ça comme une espèce de retour à l'état de la psychiatrie au début du XXe siècle. Alors, je ne vais pas, je crois que j'ai pris beaucoup de temps. Je citais ici l'étude sur le rapport entre déficience auditive et troubles psychopathologiques chez l'enfant, les recherches de psychiatrie génétique, les thérapeuties expérimentales par stimulation cérébrale. La réflexion de Falissard, c'est une réflexion, c'est hypothétique, c'est théorisant. Mais la recherche qualitative, il y a beaucoup de tentatives en ce moment de psychiatres pour adopter des méthodes qualitatives et les faire adopter comme scientifiques. J'ai appris récemment qu'a été financé en Suède, ça date d'il y a 3-4 jours, un projet de recherche d'une équipe pluridisciplinaire qui vise à étudier la manière dont les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer s'adaptent à la vie en société et peuvent continuer d'être, au moins pendant quelques années, de vrais citoyens. Ce projet de recherche a été écrit par des psychiatres, des sociologues, des psychologues, des philosophes, tout un groupe de gens qui se sont dit, et c'est pas un hasard si ça se fait en Suède, l'espérance de vie croît, les maladies d'Alzheimer croissent en nombre, nous avons dans nos sociétés un grand nombre de personnes qui démarrent une maladie d'Alzheimer et qui vont continuer de vivre avec le reste de la société pendant des années avant qu'on soit contraint en phase finale de les hospitaliser. Pendant la période où elles restent vivre dans la société, comment vont-elles s'adapter? Et que faut-il faire pour que ces personnes restent des citoyens décents, des citoyens avec lesquels on puisse commercer tous les jours? Eh bien, ce projet de recherche vient de recevoir 3 800 000 euros pour sa réalisation en Suède. Donc, il y a quand même des projets qui sont financés et qui trouvent des volontaires pour travailler. Il me semble que le chemin indiqué par Kandel est un chemin intéressant à prospecter, à condition de ne pas se dire, chacun d'entre nous, qu'on va faire ça tout seul. Un psychiatre tout seul ne peut pas. Mais des projets collaboratifs de recherche, oui. Bien sûr, nous sommes dans une société qui n'aura peut-être pas grand plaisir à les financer. Nous devons créer des fondations de recherche, etc. Mais c'est probablement la voie à suivre. Alors, en terminant, je voulais vous rappeler... Début du XXe siècle, Jaspers, et début du XXIe, Jean-Noël Missa. Cette possibilité qu'a la psychiatrie se trouve exactement sur la ligne entre les sciences de la vie et les sciences de l'esprit, ou les sciences humaines et sociales. Elle est dans une position absolument stratégique, car... elle a les malades sous la main, c'est-à-dire elle a des sujets de recherche que n'ont pas les psychologues forcément, que n'ont pas les sociologues forcément, que n'ont pas les cognitivistes forcément. Les psychiatres ont avec eux et qui peut coopérer à ce travail toute une population de malades qui ne demandent que ça, qu'on fasse de la recherche avec eux. Avec, j'ai dit. Alors, que disait Jaspers au début du siècle? L'objet de la psychopathologie est l'activité psychique, réelle et consciente. Nous voulons savoir ce que les hommes vivent et sentent et comment ils le font. Nous voulons connaître l'étendue des réalités de l'âme. Je trouve grotesque de vouloir séparer le physique du psychique. Ils ne peuvent être séparés que d'un certain point de vue. Dans l'ensemble de la science, ils forment un tout. Donc, ne pas étudier les réalités de l'âme séparément des réalités du cerveau. Et Jean-Noël Missat, dans son livre « L'esprit-cerveau », le problème du corps et de l'esprit, alors bien sûr, le problème qui est derrière cette question « Peut-on faire de la recherche en psychiatrie ?», c'est le problème des rapports de l'âme et du corps. Et si vous vous lancez dans la métaphysique, vous êtes fichu. 2000 ans de métaphysique et on n'a toujours pas trouvé la bonne réponse. Donc Missat dit « Le problème du corps et de l'esprit, de nature métaphysique, ne peut en toute rigueur être résolu empiriquement. Néanmoins, nous pensons que le développement des sciences du cerveau rend le dualisme de moins en moins crédible. » Le dualisme, c'est la doctrine qui dit qu'il y a deux substances différentes, la substance psychique et la substance physique, organique. Le dualisme est de moins en moins crédible. Nous sommes pour l'unité de la réalité que nous étudions. Et si nous sommes pour l'unité de cette réalité, nous devons pouvoir établir des liens entre un certain aspect de cette réalité et un autre aspect correspondant de la même réalité. Voilà, je vous remercie.